Bonjour à tous. Donc la programmation des Utopiales se poursuit en ce dimanche, qui n'est pas tout à fait encore le dernier jour. Je ne sais pas si certains parmi vous le savent déjà, mais il y a aussi la fameuse cinquième journée des Utopiales, qui est le lundi, qui est la journée des scolaires traditionnellement. Et je souligne le fait que certains de nos invités restent aussi, nous font l'amitié de rester le lundi pour rencontrer les collégiens, les lycéens et les élèves d'école primaire de Nantes et de sa région. Donc c'est toujours une très bonne occasion de faire la promotion de l'imaginaire. Alors, une table ronde particulière et j'espère passionnante qui nous attend à présent et que j'ai voulu titrer dans ma programmation, du coup, j'en porte la responsabilité, les mondes de l'esprit. Alors, les mondes de l'esprit, qu'est-ce que j'entendais par là? Eh bien, c'était une manière pour moi, d'abord, d'essayer d'éviter une trop grande, je dirais, concentration des utopiales sur les autres mondes matériels. Pendant ces quelques journées, on a énormément parlé de nouvelles architectures, on a énormément parlé de nouvelles cités. Moi-même, j'ai prêché à plusieurs reprises que les cités elles-mêmes, les sociétés elles-mêmes étaient les vrais personnages de la science-fiction. J'en reste convaincu, évidemment. Mais je voulais aussi qu'il y ait, parmi ces explorations, et en hommage aussi à une certaine tradition de science-fiction spéculative qui a été très marquante aussi dans les années 70, la présence des mondes intérieurs. Des mondes intérieurs dont la vastitude, dont l'ampleur, dont les frontières quasiment illimitées sont bien souvent surprenantes, inattendues, et parfois porteuses de plus de sense of wonder que les cités tentaculaires, les mégalopoles qu'on peut parfois rencontrer dans les différentes récits de science-fiction. Alors, pour explorer cet intime immense, ces méandres infinis de l'esprit et des mondes intérieurs, j'ai choisi quatre auteurs très différents, et je les remercie très chaleureusement pour leur présence. Deux auteurs suisses et deux auteurs français. Alors, je commence par celui qui est juste en face de moi, Luca Moreno. Alors, chacun a énormément de livres à leur actif. J'ai juste amené ici quelques exemplaires. Luca Moreno est donc un auteur suisse qui a participé cette année, qui plus est, au think tank sur le numérique. Il est aussi connu, Luca, pour avoir été le promoteur des premiers podcasts de science-fiction à travers l'expérience d'Utopod, à laquelle j'avais participé à l'époque, voilà. Et il vient ici aux Utopiales aussi avec un recueil singulier pluriel qui est, on y reviendra peut-être, un recueil de nouvelles mais structuré, c'est-à-dire un recueil de nouvelles avec une progression dans la démonstration, notamment en deux parties dont je reparlerai. Je reste sur la Suisse pour l'instant. L'autre auteur qui est avec nous et qui nous vient de Suisse aussi, Yvan Bidiville, qui publie chez Rivière Blanche 33e itération et qui est un jeune auteur. C'est, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Yvan, c'est ton premier roman publié.
Exactement, oui.
C'est ça, hein ? Avec tout un parcours, et là aussi, le parcours et le travail de l'auteur qui se construit au fil du temps. Quel âge tu as, Yvan ?
J'ai 29 ans.
29 ans, voilà, donc c'est jeune, hein, encore, hein, pour un auteur. Donc Yvan est un autre jeune auteur. Et puis, donc, dans 33e itération, là aussi, une exploration, vous allez voir, de cet intime paradoxalement immense. Et puis deux autres auteurs, alors un qui est un habitué, je dirais, des Utopiales quand même, que vous connaissez déjà sans doute, qui vient ici en tant qu'auteur, en tant que traducteur, qui participe à de nombreuses tables rondes, et qui est Lionel Davoust. Et il est toujours prêt à répondre à mes invitations, et j'en suis très heureux, je le remercie. Qui vient avec évidemment plusieurs ouvrages, mais notamment sa trilogie Léviathan, dont le dernier volume vient de sortir et qui est disponible à la librairie, intitulé donc Le Pouvoir. Et lui aussi, vous allez voir, revient sur cette notion d'exploration des mondes intérieurs. Et enfin, pour la première fois, sauf erreur de ma part, nous recevons, donc grâce aux éditions Sarbacane, Jérôme Bourgine, qui publie Le Voyage Impossible. Alors, ce n'est pas son dernier roman. Son dernier roman, c'est Bras de Fer, hein, si je ne me trompe pas. Ah, c'est celui-ci, d'accord, j'ai inversé, voilà. Et Le Voyage Impossible, qui est en fait un roman, mais aussi une déclaration d'amour, je dirais, on peut le dire comme ça, au voyage astral, à l'astral, au monde de l'astral, donc notamment à ceux qui passent aussi par l'esprit. Donc ces quatre livres et ces quatre auteurs sont très différents. Et le seul point commun que je leur trouve à ce stade de la table ronde, au tout début, c'est d'avoir choisi d'explorer l'univers en passant par l'intérieur, en passant par l'esprit. Alors, peut-être ce qu'on pourrait commencer à faire, moi j'ai déjà une problématique à proposer, mais peut-être ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est leur donner la parole, j'ai déjà bien parlé, et leur demander véritablement si ce titre de voyage dans l'esprit ou voyage intérieur correspond à ce qu'ils ont voulu faire dans leur texte. Pour Lucas notamment, je te donnerai bien la parole sur une nouvelle en particulier qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle « L'autre moi ». Où tu décris notamment ce voyage intérieur en passant par notamment par la technologie.
Oui, alors l'autre moi, c'est peut-être effectivement un bon exemple parce que c'est typiquement le genre de cas où je me pose la question de la thématique que j'ai envie d'aborder avant de décider dans quel genre sera le texte. En l'occurrence, je voulais parler, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais parler simplement de violence paternelle, comment dire, présenter un personnage, un enfant, totalement démuni face à la violence de son père. Et puis, j'avais envie dans ce texte de développer pour lui une façon de contrer cette violence, qui lui était présentée comme ça, contre laquelle il pouvait rien faire. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais du fantastique? Est-ce que je fais de la science-fiction? Au début, je me suis dit, je vais parler du personnage adulte. Donc déjà, à l'âge adulte, par un élément fantastique, surnaturel, il arrive à revenir dans son corps, dans le passé, et puis investir son corps d'enfant et lui donner de la force morale et physique de façon à pouvoir se défendre contre son père. Et je me suis dit, c'est un peu bateau parce que c'est fantastique. Et puis à l'époque, je lisais beaucoup de textes de science-fiction qui relevaient de la post-singularité. Je lisais Charles Stross, Doctorow, des choses comme ça. Puis tout à coup, les deux se sont mis ensemble. Et je me suis dit, on va être dans un futur post-singularité où les intelligences artificielles ont permis une sorte d'effet boule de neige au niveau du progrès des technologies et des sciences. Et du coup, on peut voyager dans le temps. Et cet adulte, il va voyager dans le temps, mais la seule façon de voyager dans le temps, c'est de revenir à l'intérieur de lui-même, dans le passé. Donc là, vraiment typiquement, c'était, une exploration intérieure. Mais il me fallait une façon, des outils pour raconter ça. Et donc la science-fiction est venue après coup. C'était pas... voilà.
Oui, donc la coloration finalement technologique ou techniciste, on va dire, oui. Tu l'as rajoutée dans un deuxième temps finalement par rapport au projet qui était celui du texte au départ.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas forcément une nouvelle de science-fiction au sens super strict du terme, super traditionaliste, dans la mesure où pour moi... moi, je suis un lecteur de tous les types de science-fiction. J'ai l'impression que pour moi, la science-fiction francophone est quand même pas mal... technophile, pour dire les choses comme ça. Et puis, par exemple, dans cette nouvelle, pour moi, le cadre est science-fictif, mais pas le propos. C'est pas la science-fiction n'est pas au centre. C'est le cadre, quoi. C'est
Ici, elle n'est qu'un instrument, finalement, narratif, peut-être pour faciliter, en fait, le message que tu veux faire passer de ce voyage intérieur. D'accord.
Oui.
Pour rester quand même sur ceux qui ont pris l'aspect plutôt technique, plutôt technologique, donc tu parles de prothèse cérébrale, Yvan, dans 33e itération. Est-ce que pour toi aussi, dans le processus de ton roman, des voyages intérieurs que tu proposes, est-ce que si tu veux, cette dimension technophile ou technique était-elle dès l'origine dans le processus créatif du roman, ou est-ce qu'un peu comme Lucas aussi, tu y es venu dans un second temps?
Alors, du coup, c'est plutôt comme pour Lucas, parce que c'est effectivement pas tout au départ. C'était en fait un moyen de justifier certains éléments que j'avais envie de mettre dans le roman. Donc, je peux pas exactement dire quoi, parce que c'est vrai que ça fait partie des twists que j'ai pas envie de révéler à des gens qui n'ont pas encore lu le roman. Mais la prothèse permettait de faire certaines choses, de modifier l'esprit des gens, d'induire en fait cette idée que la conscience de la personne est modifiée, et puis qu'à partir de là, quand il commence à perdre les pédales, quand il commence à voir des choses, il ne sait pas si c'est, il devient fou, si c'est la machine ou si c'est la cause d'une drogue qui est aussi au centre du roman, qui s'appelle le prisme, qui permet en fait une symbiose parfaite entre le cerveau et l'implant, mais qui, au moment où le niveau de prisme descend dans l'organisme, provoque des grosses hallucinations. Donc c'est en fait un polar d'anticipation avec des tripes psychédéliques qui viennent à intervalles réguliers au moment où il doit reprendre du produit pour pouvoir continuer son enquête, pour pouvoir fonctionner à son maximum.
Oui, donc l'utilisation en fait de la drogue, hein, va de pair avec l'utilisation de la technologie, ce qui en fait renvoie à une tradition quand même assez classique. Je pense qu'elle te vient aussi de tes lectures, hein, ça renvoie à Robert Silverberg, à Philippe K. Dick, etc. Et c'est vrai que ton roman, de ce point de vue-là, s'inscrit dans une veine classique, hein, du voyage intérieur, utilisant la technologie, utilisant la drogue, etc. Et donc tu y es venu toi aussi comme une justification finalement à ce voyage, à ce trip psychédélique, parce qu'il était, tu voulais en fait t'inscrire dans la science-fiction, et donc tu as utilisé, dis-moi si je me trompe, hein, tu as utilisé cet aspect technique pour te positionner le roman sur une dimension plus science-fictive finalement.
L'idée, non, c'était pas de positionner ça d'une quelconque manière, c'était une façon de justifier. C'était en fait de la gestion de contraintes en fait. Alors, j'aimerais mettre cet élément, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ah, je vais mettre ça. Mais dès le moment où je me suis dit, je vais mettre des implants, je me suis dit, c'est très intéressant de mettre des ordinateurs dans la tête des gens, parce qu'un ordinateur, quand vous allez en acheter un, vous n'allez pas acheter un ordinateur qui a 2 ans. C'est complètement ridicule. L'ordinateur qui a 2 ans, vous préférez le jeter, acheter un nouveau. Le problème, c'est que quand on met un ordinateur dans la tête de quelqu'un, il doit aller travailler tous les jours, et puis que le jour, on lui dit, ouais, ben, il faudrait un nouvel implant si tu veux pouvoir garder ta place. Ben, la personne a besoin de changer, de faire un upgrade. Pas forcément les moyens. Donc ça introduit en fait cette dynamique économique qui est particulière au marché qu'on voit beaucoup dans les smartphones maintenant parce qu'on en parle beaucoup, mais d'appliquer ça en fait à l'humain et de rendre en fait tout de suite en fait on était directement dans la dystopie, dans l'anticipation dystopique. Et bien là je me suis dit, ah c'est bien, alors je vais pousser, je vais parler un peu politique mais pas trop parce que c'est pas le sujet. Donc après j'ai géré d'autres contraintes, donc en fait au début, j'ai vraiment géré des contraintes. J'ai eu une idée un soir, je me suis dit, ah, je vais faire ça. J'ai lu mon idée le matin, je fais, oh, ben, c'est pas terrible. J'ai dit, je vais changer, je vais ajouter des éléments, j'ai ajouté des éléments, et puis, sans savoir où j'allais, et au final, j'ai dû corriger des choses, j'ai dû défaire le sac de nœuds, refaire des nœuds, et puis au bout d'un moment, ça donnait quelque chose de très cohérent, quelque chose qui avait du sens, quelque chose qui, justement, aussi, mettait en fait, l'accent sur ce qui se passe dans la tête du personnage principal. Ce qui se passe dans la tête de personnes qui ont une petite voix mécanique qui leur explique la chose logique à faire maintenant, c'est ça. Alors souvent, ils décident de ne pas l'écouter s'ils s'énervent, ils ont de la peine à l'écouter. Souvent, s'ils s'énervent fort, ils ne vont pas l'écouter. S'ils ne s'énervent pas fort, ils vont l'écouter. Faire ce qu'il faut, ce qu'ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, ils devraient faire, même s'ils ont envie de coller une tarte à quelqu'un, ils vont dire « c'est pas ta faute ». Et puis une fois, ils vont coller la tarte. Et puis... c'est très intéressant. Et puis il y a tout ce côté donc de mix qui se passe dans la tête, puis après avec la drogue on perd complètement le sens des réalités, et ça ouvre, tout est possible.
D'accord. Alors on est toujours donc dans ce voyage intérieur, mais toujours avec donc cet aspect technologique, ce qui moi m'a fait mettre, voilà, dans un premier temps, hein, attention, c'est juste une proposition pour l'instant de débat. On va revenir aussi sur la notion d'esprit, hein, parce que ça m'intéresse aujourd'hui de voir à quel point, de nos jours précisément, la notion d'esprit est devenue à la fois polysémique et assez confuse. Donc deux premiers exemples, hein, qui sont plutôt des textes faisant appel à ce que j'appellerais un arsenal technique, qui n'est pas le fondement du texte, mais qui en est simplement sa justification ou son habillage secondaire, son habillage de deuxième degré. À côté de ça, il me semble qu'on a des textes différents du côté de Lionel et du côté de Jérôme. Je vais donner la parole à Jérôme d'abord et on finira sur Lionel. Lionel, comme tu es un habitué, tu parles en dernier, c'est les habitués. Alors Jérôme, c'est la première fois que tu viens aux Utopiales avec un roman qui pour certains peut-être est de la science-fiction, mais peut-être pas nécessairement pour toi, parce que... il me semble que l'avertissement que tu donnes au début est quand même très clair. Alors, c'est peut-être aussi un jeu narratif, hein, cet avertissement, mais voilà, tu nous dis, en amont de la narration, on est bien d'accord, hein, au-delà des limites de notre monde matériel, une fois franchi le mur de la lumière, s'ouvre un univers sans limite aux propriétés fabuleuses. la tradition universelle le nomme le monde astral. Alors, ce type d'avertissement, et puis le récit qui suit, qui est très beau, qui est aussi d'ailleurs un récit entre un père, un fils et toute une histoire familiale, tu l'as positionné véritablement comme un voyage en dehors de la technique, un voyage vraiment dans le monde astral tel quel. Est-ce que c'était ça le but de ce récit ?
Alors, pour moi, c'est ni de la science-fiction, ni du fantastique, c'est du réel. Hein, je suis à la fois journaliste et auteur. Et avant d'écrire ce livre, il y a 20 ans, dans les années 90, pour des raisons personnelles, j'ai eu à aller explorer cette dimension et j'ai écrit un livre d'investigation, un livre d'enquête en tant que journaliste. Je me suis dit quelle réalité on trouve derrière ce qu'on appelle le voyage astral, les états de conscience modifiés. Donc je me suis intéressé à ça d'un point de vue d'enquêteur, de journaliste. Voilà. Donc j'ai rencontré des gens qui pratiquaient ce voyage astral, ce voyage de conscience. Je suis allé dans les endroits où on l'étudiait, il n'y en a pas 50 000, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons où on a une attitude plus scientifique, c'est-à-dire avant de dire c'est scientifique ou pas scientifique, on s'y intéresse et puis après on va dire est-ce qu'on a les moyens d'en tirer des opérations répétitives, etc. Et tout. Il y a un endroit aux États-Unis dont je parle d'ailleurs dans le livre, où on étudie le voyage astral de manière très scientifique avec des voyageurs astraux qui explorent cette dimension qui pour nous... parce qu'il y a une géographie évidemment des mondes de l'esprit, hein. Donc, comme les Américains ont toujours l'impression de redécouvrir tout, ils appellent ça focus 1, focus 2, focus 3, suivant l'endroit où on va. Puis dans la tradition ésotérique, enfin, on s'y intéresse depuis très longtemps, en Occident aussi, en Europe, on n'appelle pas ça comme ça. C'est le monde astral de tel niveau, etc. Bon, et voilà. Donc, je me suis intéressé à ça. J'en ai fait un livre d'enquête, quasi, enfin, pas scientifique, mais voilà, ça a même été étudié en laboratoire. On a prouvé un certain nombre de choses. Donc, pour moi, c'est une réalité. Et là, j'en ai fait un roman parce que j'ai eu envie de raconter cette histoire et que c'est une des choses que moi, un journaliste, c'est juste un. C'est le petit rapporteur, c'est Tintin, c'est un éclaireur. On part au devant, on cherche des trucs, on les ramène au feu de camp le soir. Et quelque part, j'ai du mal à m'endormir le soir avec l'idée de se dire qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas que chaque nuit sortent de leur corps et que chaque nuit, ils voyagent dans ces dimensions-là. Et ils s'en souviennent en général très mal, puisque les rêves, un certain nombre de rêves sont des réminiscences de cette autre partie. Et puis à côté de ça, à l'autre côté du spectre, il y a ce qu'on appelle l'école de la nuit. Vous avez des gens qui ne perdent jamais conscience et qui, le soir, quand ils s'endorment, en fait, ne perdent pas conscience, mais basculent dans cet au-delà, dans ce monde astral, où ils continuent d'exister et qui est une sorte, ce que je dis aussi, qui est notre véritable patrie parce qu'on y passe beaucoup plus de temps que sur Terre. Mais enfin, ça va déjà paraître très ésotérique, mais c'est pour dire, là, c'est un ado qui apprend à sortir de son corps. Après, science, patience, les chamans font ça tous les jours, ils le faisaient. Les Américains ont fait passer une loi il y a 15 ans interdisant les brain machines, c'est-à-dire les machines qui modifient les trains d'onde du cerveau, parce que le cerveau fonctionne de manière physico-chimique. On peut donc prendre du LSD, des substances qui vous font faire des voyages du même ordre, hein, des champignons hallucinogènes, etc. On fait du voyage astral, mais on peut aussi le faire comme un diapason. Si on fait vibrer un diapason, on met un autre diapason, le diapason à côté se met à vibrer, le cerveau fonctionne de la même manière. On peut donc induire des trains d'onde qui sont ceux du voyage astral ou de la méditation profonde, des états de conscience modifiés, et on peut faire voyager les gens. Et les Américains ont interdit ces machines. J'étais avec l'expérimentateur qui proposait sa machine, et c'est après, peu de temps après que la loi est passée. Donc, il n'y a pas, à mon sens, à opposer à la technique. Il y a mille façons, la méditation étant la plus sage, il y a mille façons de découvrir ces royaumes intérieurs.
D'accord. Donc, en fait, là, on a un cas vraiment qui est différent. Hein. On n'est pas dans un imaginaire de point de départ. On est dans le cas d'un journaliste hein, qui mène une investigation que vous qualifiez, enfin que tu qualifies, Jérôme, de scientifique et qui l'est dans la méthode et dans la démarche. En tout cas, j'en suis tout à fait convaincu de ce point de vue-là. C'est dommage d'ailleurs, on aurait pu aussi avoir un scientifique à la table parce que c'est vrai que ce que tu dis, notamment sur la conception des limites entre la science et ce qui n'est pas de la science chez les anglo-saxons et plutôt dans les pays latins, ou comme la France, la différence, le regard est très différent, ce qui ne m'étonne pas du tout que ce soit précisément aux États-Unis que ce genre d'expérience soit pratiquée de manière expérimentale, etc. Et du coup, tu as fait ce roman qui est en fait, pour toi, qui n'est pas une fiction, qui est une utilisation de la fiction pour faire une diffusion, une communication sur une connaissance d'une expérience directe que tu as eue. Et où il me semble bien que cette technologie, effectivement, n'a pas grand rôle à jouer. Comme tu l'as dit, la méditation, hein, du point de vue de ce que tu nous as expliqué, ouvre les portes du monde de l'esprit sans recours à aucune technologie. Alors, Lionel, dans le Léviathan, dans la trilogie du Léviathan, toi, tu nous dis quelque chose de très différent. Tu nous expliques, alors tu vas maintenant le préciser, que quelle que soit l'évolution technique, que quel que soit l'aboutissement technologique, que quelle que soit l'approche de ce que tu disais tout à l'heure, Lucas, la singularité, il y a au fond de nous, au plus profond de l'être humain, au plus profond de peut-être l'inconscient, un pouvoir qui gît, qui attend, et dont nous avons perdu le mode d'accès ou le mode d'usage, et qui, dans ton roman, se réactive.
Alors, effectivement, dans l'univers de Léviathan, postule quelque chose d'assez simple et qu'on retrouve à travers des traditions mythiques depuis toujours et dans certaines aussi traditions ésotériques et initiatiques, qui est que ce que Lovecraft résumait en disant « une des plus grandes chances de l'esprit humain, c'est d'être incapable de corréler les éléments qui composent l'univers. » Parce que si jamais il était capable de corréler cette image-là, elle le dépasserait, elle le rendrait fou. Le jeu narratif de Léviathan est de reprendre ces éléments-là et de partir du principe qu'effectivement, en tant qu'espèce, en tant que peuple, échangeant une culture, échangeant constamment des représentations de la réalité, ce qui est finalement la définition d'une société, de s'accorder sur des visions communes de la réalité, au-delà de ça, au-delà de nos perceptions, qui sont par essence des mensonges, puisque ce sont des représentations de la réalité, il y a une autre forme de réalité qui est potentiellement accessible justement par d'autres biais, comme la méditation, tout un tas de choses. Et que c'est le jeu du roman, on a trois personnages principaux qui, chacun, se confronte à cette réalité autre, qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui simplement dépasse l'individu, en tout cas, qui l'ignore, et entre les mains de l'initié, puisque pour moi Léviathan s'inscrit directement dans la tradition du roman initiatique et du roman d'apprentissage, et là en l'occurrence il y a justement cette confrontation à cette réalité non consensuelle et comment réagir à ces choses là, comment éventuellement développer son potentiel. C'est ce que font les personnages. Il y a une initiée qui se rend compte que c'est encore plus vaste que ce qu'elle imaginait. On a quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un d'individu assez lambda qui se rend compte qui se trouve confronté à ça, soumis à des épreuves et qui doit explorer cette dimension-là au risque d'y laisser sa peau. Et on a un agent du FBI scientifique qui, lui, aborde ça par l'angle de la recherche d'avant-garde et qui se rend compte que ça débouche sur des choses qu'il n'imagine pas. Donc oui, pour moi, le thème du voyage de l'esprit est central à Léviathan. Et au-delà du voyage de l'esprit, c'est surtout un voyage initiatique, puisque pour moi, je vois comme du thriller, donc du roman d'aventure, avec quand même une histoire qui... Moi, je me considère comme un enfant de la littérature populaire, donc j'ai envie d'une histoire qui avance, qui bouge avec des coups de théâtre.
Avec un rythme, oui.
Voilà, mais aussi derrière cette dimension, cette inscription très claire dans la tradition du roman initiatique. Et en faisant aussi le jeu du roman, c'est de considérer que tout mythe, toute tradition a un fond de vérité et que tout cela justement fait partie de cet univers qui est en dehors de notre bulle de perception.
Bien, merci. En plus, c'est exactement ça, en dehors de notre bulle de perception, ça veut dire que finalement, la science-fiction, enfin... l'imaginaire, parce que finalement, ce terme de science-fiction ici me paraît un trait un peu réducteur, du coup, à moins de considérer le mot science, alors c'est un vieux débat, hein, on ne va pas le faire ici, de façon très extensive, en intégrant sciences humaines, exploration scientifique, ou en tout cas, méthode d'exploration de nature à être scientifique, c'est-à-dire avec des expériences répétées, de l'expérimentation vraiment organisée, enregistrée, etc. On est vraiment dans cette idée que la science-fiction vise à... repousser les limites de notre perception. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui me surprend, et je vais être un peu provocateur. Vous explorez les mondes de l'esprit, tous les quatre, par des éléments différents. Bon, Lucas, j'ai pris ce biais hein, de l'autre moi, mais toutes tes nouvelles, évidemment, c'est un recueil de nouvelles, donc toutes ne sont pas sur cet aspect-là. Mais il me semble que quand même, hein, dans singulier pluriel, il y a une dimension intimiste profondément ancrée. Et pourtant, aucun de vous ne parle de l'inconscient. Aucun de vous ne parle directement de l'inconscient ou ne fait de l'inconscient freudien au sens... voilà.
C'est même pas vrai.
De l'inconscient freudien classique, c'est-à-dire au sens où le fonctionnement de l'inconscient...
La première chose que... Quand on voyage en conscience, quand on fait un voyage astral, la première chose, on est une pensée qui habite un corps. Le voyage astral, c'est cette pensée qui va voyager en dehors des limites du corps, ou en tout cas de la réalité. Ce monde de perception, c'est exactement ça. On est tous scotchés sur TF1. Là, ce qu'on voit, c'est l'imaginaire TF1. Même si vous faites un scan, c'est très intéressant, sur 360 degrés, il n'y a rien autour de vous qui n'ait d'abord été conçu et pensé par l'homme, aujourd'hui où on en est arrivé dans la société. Là, si vous vous tournez, vous faites sur 360 degrés, vous verrez que le monde dans lequel vous vivez est entièrement créé par l'homme. On vit déjà dans un monde virtuel, dans un monde qui a été entièrement créé par l'homme. Et la première chose qu'on expérimente quand on voyage, c'est justement son inconscient. Et c'est l'inconscient le plus profond, c'est-à-dire que tous les néophytes qui font du voyage astral ou du voyage en conférence vont expérimenter deux dimensions qui sont celles du cerveau reptilien, la première base de données qui a été mise à notre disposition, qui va vibrer sur le niveau de la pulsion sexuelle et la pulsion de peur, c'est-à-dire de vie ou de mort. Donc la première chose qu'on expérimente, et tout le travail de l'astral, c'est pour ça que toutes les spiritualités, toutes les traditions disent, si tu veux découvrir les mondes spirituels, il faut que tu maîtrises tes émotions. Il faut que tu maîtrises tes pensées, parce que tout ce qui va t'être proposé d'abord sera de la projection. C'est-à-dire que le voyageur astral, le voyageur en conscience, ou n'importe quelle personne qui se tourne vers une quête spirituelle et qui veut rentrer dans cette dimension, va être d'abord confronté à son propre inconscient, va devoir affronter ses démons. C'est le principe des gargouilles et de tout ce qu'on appelle les gardiens du seuil qui se trouvent à l'entrée de tous les édifices sacrés du monde entier. C'est-à-dire à Notre-Dame, vous avez des gargouilles qui sont là. Ce sont les démons, c'est-à-dire la part négative. Oublie ta part, c'est Saint-Michel, oublie ta part animale. Il faut que tu vainques l'animal en toi si tu veux rentrer dans une autre dimension. Et donc, voyager en conscience, c'est d'abord affronter son inconscient.
D'accord. Alors, réaction de Lucas.
Pour rebondir là-dessus, j'abonde dans ton sens. Je pense que c'est quelque chose de propre à toutes les traditions religieuses spirituelles, la notion de méditation. Mais méditation au sens concentration sur soi et dépassement de ce que les perceptions... dépassement du fait que les perceptions nous trompent. Et ça, je rebondis aussi sur ce que disait tout à l'heure Lionel. Parce que c'est vrai que notre monde, si on s'attarde pas quelques secondes sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, notre monde est fait de ce qu'on perçoit. Et si on n'analyse pas ces perceptions-là, si on n'en fait pas quelque chose, si on ne va pas au-delà de ça... On est complètement la proie de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent, évidemment de la société dans laquelle on évolue. En fait, on est complètement la proie de ça. Et donc moi, à titre personnel et puis aussi dans ce que j'écris, je développe beaucoup et je m'intéresse beaucoup à la notion de vigilance. Vigilance intellectuelle, vigilance spirituelle, c'est-à-dire ne plus être la proie de ces choses-là et savoir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, dans une tradition peut-être plus philosophique que religieuse, très connue et qui date vraiment pas d'hier, vu que ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le bouddhisme, on doit se battre contre ses démons et se battre contre l'illusion de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, c'est une sorte de conglomérat, d'agrégat d'éléments qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, mais qui, cet agrégat d'éléments voile... La véritable nature de ce qu'on est. On appelle ça la pleine conscience. Maintenant, c'est très à la mode, les exercices de méditation de pleine conscience appliqués au cas de dépression ou ce genre de choses. C'est très utile, c'est très efficace parce que ça aide à désagréger le voile, quoi.
Tu veux dire qu'en fait, ouvrir les portes de l'esprit, vous êtes assez proche, en fait,
ouais.
C'est fermer celle de la perception.
C'est-à-dire
rentrer à l'intérieur de soi en fermant les interfaces biologique qu'on a avec le monde physique.
Je crois que dans un premier temps, il faut. C'est clair que si on veut devenir marin, on ne va pas monter sur un bateau en pleine tempête au milieu de l'océan. Donc on va commencer sur un lac, une petite rivière, etc. Là, c'est la même chose. Si on se lance, par exemple, dans la méditation, moi, je ne connais pas du tout le voyage astral, mais enfin, de ce que j'ai entendu, ça pourrait aller dans le même sens. Si on se lance dans la méditation, dans un premier temps, oui, il faut fermer les portes. C'est un peu comme dit Stephen King dans On Writing, dans un thème un peu différent. Il faut fermer la porte pour se concentrer sur ça, pour écrire. Oui, fermons la porte. Mais dans un deuxième temps, le but, c'est de pouvoir être sur les deux plans en même temps. D'accord. Parce qu'il y a aussi la richesse de ce qui vient de l'extérieur.
Et juste avant de donner la parole à Lionel, on reviendra après sur Yvon aussi. Pour toi, l'écriture en tant que telle, est-ce que c'est l'une des portes des mondes de l'esprit ? C'est-à-dire, est-ce que quand tu es... Parce que tu cites, je suis désolé, hein, je rebondis sur ça, mais tu cites Stephen King, On Writing, que moi j'ai lu aussi et profondément aimé. Et quelque part, c'est ça. C'est-à-dire, écrire, c'est déjà être dans le monde de l'esprit.
En fait, tu parlais tout à l'heure d'inconscient. Trouvais pas tellement dans ce. On va pas dire analyse, c'était plutôt une piste que tu lançais pour développer le débat. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconscient dans mes textes, notamment dans Comme au premier jour. Je sais pas si tu te souviens, donc l'histoire de ces vies passées qui remontent de manière, comment dire, un petit peu explosive comme ça, mais qui sont déclenchées justement par quelque chose, par une prise de conscience ou alors par la prise de médicaments. Là, en l'occurrence, c'est un médecin chinois qui prescrit des plantes au personnage principal qui vont l'aider justement à retrouver ces choses-là. Donc par rapport à l'inconscient, alors ce qui est intéressant dans Singulier Pluriel, c'est que moi, j'ai écrit ces nouvelles de manière un petit peu disparate au niveau thématique, au niveau chronologique, sur plusieurs années. Et tout à coup, je me suis dit, je vais faire un recueil. Mais ce n'était pas un projet artificiel. Me dire, je vais simplement les mettre ensemble pour que les gens y aient plus accès, parce qu'évidemment, l'éditeur, en l'occurrence, c'est mieux distribué que les petites revues, etc. Mais c'est vraiment parce que j'ai été frappé par une certaine homogénéité, un certain regroupement naturel de ces nouvelles. Et tout à coup, je me suis dit, tiens, ces 6 dernières années, ce que j'ai écrit, ce sont vraiment alors, des nouvelles à chute où l'idée est très importante, mais où il y a une exploration intérieure qui est au devant de la scène. Et je pense que j'ai vu juste. Parce qu'après coup, dans les critiques et puis dans les interviews qu'on m'a accordées, etc., on m'a sorti plein de choses qui relevaient de mon inconscient. Donc, je me suis redécouvert et j'ai redécouvert mes textes après coup.
D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. J'y reviendrai après. J'y reviendrai après parce qu'il y a un rapport avec une notion que j'aime beaucoup chez Gérard Klein qui a été développée. Donc, Lionel, hein, je disais un peu de manière provocatrice, effectivement. Mais en même temps, cette idée... d'inconscient au sens culturel du terme, c'est-à-dire au sens l'inconscient tel que nous le concevons ici en Occident, voilà.
Ben justement, je ne fais pas référence à l'inconscient freudien, mais à son élève devenu grand ennemi, l'inconscient jungien, en allant justement taper dans la page en exergue du premier volume de Léviathan, une citation de Jung que j'aime beaucoup, qui dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. » Dans toute dimension d'initiation, alors quand on l'apprend de façon très vague, vaste, c'est-à-dire dans l'optique de développement de soi, c'est-à-dire l'aller au-delà de l'endroit où on est, et d'essayer de s'améliorer, quelle que soit la connotation et ce qu'on met là-dedans, il y a forcément la notion, on parlait de bulle de perception, d'aller au-delà de ça, et donc tout ce qui est en dehors, tout ce qu'on ignore est forcément, d'une manière ou d'une autre, est inconscient. C'est justement assez intéressant l'approche qu'on a en Occident, où finalement l'inconscient est souvent considéré comme quelque chose à être conquis.
Et un territoire.
Voilà, comme effectivement un territoire qu'ensuite on peut conquérir et cartographier. Moi, je me situerais plus très en accord avec Jung. Je vais faire un truc éminemment casse-gueule. D'ailleurs, je vais faire se parler Jung et Tolkien dans un instant.
Nous sommes aux utopiales.
Donc tout est possible. L'inconscient a justement de valeur comme territoire mystérieux et comme territoire inconnu. Jung disait vers la fin de sa vie qu'une des grandes... c'est un truc que je raconte déjà plusieurs fois, mais qui est un truc qui pour moi est assez fort et finalement assez éclairant, je trouve, de l'époque dans laquelle on vit, c'est que à l'ère moderne, l'homme se voilà, se félicite beaucoup de la raison comme grande conquête de l'ère moderne. Et effectivement, la raison permet d'envoyer des gens sur la Lune, permet tout un tas de réalisations technologiques qui sont fascinantes et qui permet d'avoir Internet dans sa poche, de mettre en relation des gens qui se mettraient pas forcément en relation de façon immédiate. Et ça, c'est ni bien ni mauvais, c'est un progrès technologique et l'homme est une espèce d'outils, une espèce à outils qui crée forcément des outils pour apprivoiser son environnement. Mais en faisant ça, s'interroge Jung, ne nous coupons-nous pas aussi de ce qu'il appelle les forêts de l'inconscient, qui sont par justement une jolie expression, par le territoire inconnu, par les territoires évocateurs, qui ne sont pas forcément rationalisés, qui ne sont pas forcément mis dans des cases. Est-ce qu'on ne se coupe pas d'une potentialité d'émerveillement et l'émerveillement, même si c'est pas quantifiable et si c'est pas objectif en tant que fait observable, c'est quelque chose qu'on ressent et qui a pour autant donc aussi une réalité. Et Tolkien dit dans sa correspondance, je ne sais plus qui lui envoie une lettre en lui disant, en parlant d'une forêt au loin qui est décrite au détour des longues randonnées des deux tours, en parlant et le correspondant de Tolkien lui dit, c'est dommage, voilà, c'est cette forêt observée de loin juste par les personnages en passant, c'est dommage. Elle est évocatrice, on aimerait en savoir davantage. Et Tolkien répond, probablement oui, mais elle est évocatrice justement parce qu'elle est loin et qu'on passe juste devant. Et il a cette expression très belle, il dit, si jamais j'avais emmené les personnages jusqu'à ces arbres, cette forêt au loin qu'on devine et qu'on imagine, il dit, ça n'aurait plus été que des arbres proches. Mmh. Et l'inconscient, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, que ce n'est pas instructif de s'y confronter, mais il est instructif justement parce que Nietzsche dit celui qui regarde l'abysse, l'abysse le regarde à son tour. Et je pense que c'est cette contemplation qui nous renvoie et qui nous renvoie à nous-mêmes qui est finalement beaucoup plus évocatrice et riche d'enseignements que le fait de pénétrer dans l'inconscient et juste de le défricher. C'est ce qui nous apprend sur nous-mêmes qui est instructif.
Mais très bien, merci pour cette analyse qui plus est ambitieuse et très claire, parce qu'on finit par la thématique de la forêt qui est quand même une thématique fondamentale dans les mythes, etc. Mais tu dis en fait que finalement le territoire est pas la bonne façon, et en même temps on reste quand même dans l'idée d'un espace, hein, quand même dans l'idée d'une zone à explorer, d'une zone frontière, d'un no man's land, d'une succession de zones, etc. C'est vrai qu'on a du mal à en sortir de cette métaphore territoriale. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que je veux bien et croire et explorer les mondes de l'esprit, mais je continue à voir dans la plupart des cas, donc ici encore quand même, des métaphores du réel, c'est-à-dire qu'on explore l'esprit avec, tu dis toi-même Jérôme, des environnements humains, mais on va quand même projeter des environnements, des lieux, des directions, des contournements, etc. Est-ce que c'est pas quand même encore une barrière pour accéder véritablement à ce qui serait une vraie cartographie du...
Alors... À mon humble avis, et c'est un des principes
pour les raisons narratives.
Oui,
aussi,
alors voilà, après, effectivement, moi je considère, je suis là pour raconter une histoire, donc forcément, il est nécessaire d'avoir aspect à des détours qui soient parlants narrativement. Au-delà de ça, c'est quand même constitutif de l'histoire et de l'univers qui est dépeint. Il y a un principe il y a un certain nombre de préceptes dans Léviathan qui d'ailleurs sont à chaque fois battus en brèche en disant justement, un des préceptes dit qu'il n'y a pas de précepte. Donc bon, y a un peu d'ironie, et d'ailleurs les règles de fonctionnement de l'univers se moquent même des personnages, puisque donc un de ces préceptes, c'est, il dit, mais c'est bon, c'est une reprise des sagesses orientales, hein, de certains trucs, c'est il n'y a d'autre chemin que le cheminement. Effectivement, l'inconscient peut être vu comme un territoire à défricher dans lequel rentrer pour essayer d'aller voir ce qu'il y a, mais c'est le processus qui est riche d'enseignements. C'est le fait de se confronter, pour moi, à l'inconnu, c'est le voyage, effectivement. C'est pour ça que cette confrontation à cet inconnu qui avait dans le processus qui va être plus riche d'enseignement que ce qu'on va y trouver en y étant. C'est qu'est-ce qu'on aura appris sur soi. Et c'est là que le voyage de l'esprit se place, à mon humble avis.
D'accord, oui, dans le cheminement. Et vous faites tous souvent référence quand même aux philosophies orientales. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent lorsqu'on a ce type de texte. Comme si ce besoin, ce que tu l'as dit, de sortir d'Occident trop rationalisé, trop froid, et du coup ce besoin d'aller peut-être revenir aux philosophies orientales. Bon, ça, on pourra peut-être encore en discuter tout à l'heure. Moi, j'ai encore des questions sur la notion de collectif et d'individuel. Ton singulier pluriel, justement, m'a fait tilter. Yvan, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas donné la parole. Vous êtes quatre, et c'est vrai que vous êtes un peu nombreux.
C'est pas grave.
Est-ce que pour toi aussi, dans 33e itération, est-ce que c'est le cheminement, que ce soit par la drogue ou par la technologie, par le prisme ou par la prothèse cérébrale, est-ce que ce que tu veux démontrer, c'est que c'est plutôt le chemin qui est intéressant ou l'aboutissement finalement?
À ce sujet, en fait, c'est techniquement, je n'ai pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que dans 33 itérations, l'idée du voyage astral n'est pas centrale du tout. Les gens, on se plonge dans leur esprit.
Pour... Voilà, on ne parle pas forcément de voyage astral au sens de Jérôme. On parle
bien
de,
sûr.
Voilà.
Ouais. Mais les personnages de 33 itérations sont dans une logique en fait, de production. Ils sont dans une société qui leur dit si vous n'êtes pas productif, on va vous remplacer. Et puis quand on vous aura remplacé, ensuite on ne s'occupera plus de vous. Donc les gens n'ont pas le temps de se poser des questions. Et il y a une scène justement dans 33e itération où le personnage principal regarde une affiche qui a été placardée dans les années 30 en Allemagne, où on voit un visage de quelqu'un d'un blond fort et souriant sur la moitié de l'affiche, puis le visage d'un homme de type arabe, le regard biaiseux, et on le demande lequel est-ce que vous préférez. Il regarde cette affiche et il ne pense rien. Il n'y a rien qui est dit. Une fille qui passe devant et il mate les fesses de la fille. C'est-à-dire que lui, l'inconscient, il n'a pas le temps de s'y intéresser. S'il s'y intéressait, il verrait des dysfonctionnements qui lui sont complètement invisibles.
Mais en fait, tout est fait justement pour qu'il ne les voit pas.
Exactement. D'ailleurs, la machine qu'il a dans la tête, c'est jamais vraiment dit, mais on se dit, il a cette machine dans la tête. Et effectivement, lui et les autres ne se posent pas de questions.
C'est une dystopie, en fait, ton roman. C'est-à-dire que c'est une manière de priver l'humain de sa capacité à être libre de façon instinctive.
Oui, exactement. On l'oblige à faire des choses et on l'oblige... Le personnage principal, il y a eu beaucoup de romans où le personnage principal était un flic qui prenait de la drogue. Là, j'avais envie que tout ait du sens. Et donc, le flic ne prend pas de la drogue parce qu'il est déprimé ou parce que ça lui fait plaisir. C'est parce qu'on le pousse à la production. Il a une vieille machine dans la tête. Il faut qu'il la fasse accélérer. Il faut qu'il accélère son esprit. Donc, il prend du prisme ou il prend de la cocaïne ou n'importe quoi, ce qu'il peut. Et donc, lui, il est dans une logique qui ne s'intéresse pas à l'inconscient. Mais son inconscient se manifeste, le côté reptilien se manifeste chaque fois qu'il pense à la drogue. C'est chaque fois qu'il pense à la drogue, il arrête d'être rationnel. Il n'y a aucun moment où il se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le bon moment de reprendre une dose? Son esprit lui dit, alors, tu pourrais prendre temps, ça fera ça, tu prends temps, ça fera ça. Et il est tout de suite dans le matérialisme. Il n'y a plus d'inconscient, vraiment. Et voilà, donc du coup, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces idées.
Oui, sur la notion d'inconscient.
Effectivement,
ouais.
Effectivement, je fais exprès d'éviter le sujet, on peut dire. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes et
d'accord.
Tout est dans le matériel. Quelle action, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'il faut que j'aille voir.
D'accord, voilà. D'accord. Alors j'étais parti finalement sur une séparation de vos approches, mais je vois que c'est pas si évident que ça, effectivement. Et un qui ne parle pas du tout d'inconscient, un qui en parle beaucoup et d'inconscient jungien. J'ai une question qui va faire orienter le débat sur un autre chemin. Donc avant de la poser, est-ce que dans le public, il y a des questions sur l'exploration des mondes de l'esprit, sur le point commun peut-être entre les différents auteurs, et sur l'idée peut-être que justement cette exploration des mondes de l'esprit, plus que jamais dans l'imaginaire, elle a sa place, alors même que nous sommes une société ultra-technologique et vraiment faisant référence souvent au matérialisme. Est-ce qu'il y a une question? Oui, monsieur. Et après, je repartirai sur le débat sur la société, en fait.
Bonjour. Bon, je vais poser une question à tous les auteurs. Pas un auteur en particulier. Est-ce que vous avez besoin, pour réaliser vos ouvrages, d'entrer dans une espèce de transe, de laisser parler votre esprit, quelque part, et après de châtier votre prose? De retravailler, ou alors vous cherchez absolument à tout maîtriser, même si vous décrivez des choses très, très éthérées, très, très irrationnelles.
Alors du coup, pour écrire, il y a une grande part d'instinctif, surtout dans ce qui s'agit de partir dans l'inconscient. Il y a aussi d'autres moments dans mon roman où il y a l'inconscient qui se manifeste, c'est quand la personne a des hallucinations. Ces hallucinations sont créées du fait que le cerveau normalement réfrène pas mal de signaux et transmet en fait. Enfin, on réalise seulement certaines choses en fait de ce qui se passe dans notre cerveau. Et donc, dans certains moments, la machine, quand elle a plus assez de prisme, elle va dire ah ces signaux là ils se font éliminer, je vais leur donner écho. Donc ça donne que la personne elle voit des choses, elle ressent des choses qui n'existent pas, c'est juste dans sa tête. Et donc là typiquement il y a une grande part d'instinctif dans l'écriture où c'est le moment où je dis de toute façon je vais pas maîtriser, je vais pas réussir à mettre des bornes et puis faire un truc carré, je vais pas réussir à être juste. Donc je me dis, je vais partir un peu dans le symbolisme pour quand même qu'il y ait de la substance dans le délire, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est gavant. Et puis, à partir de là, bah, je pars dans une direction, je corrige des tas de choses, mais il n'y a aucun moment où je peux justifier chacun des mots et dire ça, c'est important parce qu'il y a une part de hasard. Et puis, c'est justement ce qui est bien pour moi, c'est parce que justement, là, je suis dans des délires quand je fais ça. Et donc, on ne peut pas vraiment me reprocher de faire des délires quand je décris des délires. Donc voilà, je me fais plaisir en même temps.
Donc ok, officiellement, personne ne prend de drogue à cette table, hein, bien sûr. Alors Lucas.
On peut en discuter.
Jamais.
Pour répondre à la question de Sébastien, je pense que ça renvoie à l'éternel débat entre plot writing et organic writing. Bon, ça c'est des termes qui nous viennent des États-Unis.
Traduis-le en français.
Oui, alors plot writing, ce serait peut-être... Voilà, l'auteur qui, soyons extrêmes, qui structure absolument tout, c'est-à-dire il pense à tout, il structure son récit avant de commencer vraiment à rédiger, avant de s'attaquer vraiment à la partie écriture, à proprement parler, serait un plot writer, c'est-à-dire un écrivain du canevas, de la structure en amont, le terme m'échappe, du scénario.
Francis Berthelot propose structurel et scriptural pour oui, les deux traductions.
Voilà, structurel et scriptural pour
oui,
avoir
synopsis,
une version
storyboard,
francophone, enfin, et effectivement. Et puis à l'autre bout du spectre, on aurait la personne qui écrirait de manière complètement organique, c'est-à-dire sans ne rien avoir préparé en amont. D'ailleurs, si on lit, pour revenir à On Writing de Stephen King, lui, c'est vraiment un écrivain de l'organique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment recommandable On Writing pour un jeune auteur, parce que s'il n'est résolument pas organique, il ne va peut-être pas se retrouver dans les modèles évoqués par Stephen King. Bon, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, par exemple, je suis un écrivain très structurel. C'est-à-dire j'ai besoin de structurer. Quand j'écris de la fiction, parce que voilà, j'écris de la littérature d'idées, c'est basé sur les histoires, et j'ai, comme Lionel, envie qu'il y ait une progression dramaturgique avec des rebondissements, etc. Donc j'ai besoin de structurer mes récits. En revanche, quand j'écris de la poésie, parce que j'en écris aussi, c'est pour moi un espace de liberté où il n'y a aucune contrainte, aucune structure en amont. Mais ce que je remarque, c'est que il y a quand même, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme s'il y avait une idée, une structure en amont, mais que je la découvre seulement une fois que les mots ont été écrits. Et je trouve ça intéressant, ça m'amène à une conclusion par rapport à ça, c'est que pour moi, au fond, aucun écrivain est complètement organique ou complètement... au bout d'un moment, on s'y retrouve, quoi. Parce que, par exemple, la personne qui structure à mort, au moment de l'écriture, les personnages vont prendre des chemins de traverse. Et puis voilà, bah, si on est un bon auteur, on les laisse faire. Parce que sinon, le récit va être un petit peu artificiel.
Un
quoi.
Peu froid, bien sûr.
Voilà. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
Ok. Lionel et Jérôme, même si Jérôme, la réponse est évidente, il me semble.
Pour l'inspiration évidemment, j'ai une opinion personnelle, bah, puis j'ai des propres processus. Mais il se trouve que des scientifiques ont étudié la question. Notamment ceux qui balancent les gens dans l'autre monde, dans l'astral, par un procédé qui s'appelle le procédé hemisync, c'est-à-dire faire fonctionner les deux hémisphères du cerveau de manière synchrone. Il n'y a que deux autres moments dans l'existence où les hémisphères du cerveau fonctionnent de manière synchrone, qui sont l'orgasme et qui sont ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration profonde, c'est-à-dire le processus créatif. Quand on est là, les deux hémisphères du cerveau fonctionnent de manière synchrone, avec la méditation très profonde, celle des sage entre guillemets, voilà, c'est les trois seuls moments où on a ça. Et donc quand on est dans ce processus vraiment d'inspiration, c'est vrai, il y a une exaltation, on est à la fois hors de soi, mais en fait plutôt plus en soi, le cerveau fonctionne de manière synchrone. Donc il y a quelque chose de très scientifique. Et après, il y a la manière de cultiver ça. Comment est-ce qu'on va aller rechercher ça, garder au conscient.
Très bien. Mais précisément, dans ton inspiration, parce que tu racontes quand même une histoire au-delà de la description de voyage astral, comment est venue ton inspiration? Est-ce que tu utilises la méditation tu vois, je veux dire, pour écrire la fiction
Le monde astral, c'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge le monde imaginal ou le monde imaginaire. Le monde, l'astral, c'est le monde des tout possibles.
Oui, oui.
Mais tout existe. C'est vraiment le monde imaginaire.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde astral, c'est le sujet du voyage impossible. Mm-hmm. Mais pour écrire le voyage impossible, pour raconter ton histoire, comment as-tu fait pour... En fait, c'est ça la question, pour écrire le roman. Est-ce que tu as utilisé la méditation ou est-ce que tu as laissé l'inspiration venir, l'inspiration de l'histoire elle-même, en fait?
Oui, non, c'est ça. Il suffit d'ouvrir quelques portes et ça se met à vous habiter. On vit, enfin, on connaît tout ça, quoi. Je veux dire, donc, à partir de la page 3, les personnages prennent possession. D'une partie de l'acte créatif, quoi.
D'accord. Lionel ?
Moi, je suis un peu effectivement entre les deux. Je suis assez, en fait, c'est assez rigolo et ça manque peut-être pas de sel par rapport au thème de la table ronde. C'est que dans Léviathan, mes personnages se passent quand même un certain temps à se demander ce qu'ils font là, leur place dans le monde, etc. Avant d'écrire une histoire, j'ai aussi besoin de m'expliquer ce que je fais là. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Pourquoi est-ce que je considère que ça va, en gros, je vais pouvoir décemment proposer à quelqu'un de passer du temps avec cette histoire et pas considérer qu'il va perdre son temps en le faisant? Donc c'est pour ça que je suis assez effectivement structurel en amont, comme faisait référence Lucas. Je structure beaucoup pour savoir de quoi ça parle, quels sont les personnages et quel est le propos narratif. Mais c'est juste une meilleure façon de pouvoir cadrer après l'écriture et de lui donner un cadre où se lâcher. Quelque part, c'est comme si je construis un canal et puis après je fais venir la mer et je vois ce qu'elle fait. Donc je fais des plans qui parfois partent ailleurs et j'ai assez fréquemment dans mes plans... Des fois, il y a marqué dans certains chapitres, j'ai pas la réponse, mais je vais trouver. Ou plus exactement, mon inconscient va trouver en cours de route. Et la réponse va émerger de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment une oscillation entre les deux. Il y a une part de processus conscient pour structurer, savoir ce qu'on veut dire. Comme Lucas le disait, mettre les intensités narratives au bon moment, réfléchir à l'effet que telle scène peut créer sur un lecteur, quelles vont être ses attentes derrière. Parce que on est tous nourris à de la fiction, encore plus encore aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque. Il y a beaucoup de schémas narratifs, on est entouré de ça, ne serait-ce qu'à travers la pub, qui sont des petites histoires de 10-20 secondes, une affiche télé. Tout ça, c'est des histoires. On sait que les gens qui font du marketing le savent. La meilleure façon de passer un message, c'est de faire une histoire autour. Donc, est-ce que le lecteur va s'attendre à ça ou pas? Et quelles vont être ses attentes? Est-ce qu'il faut tirer le tapis sous... Donc, cette phase-là, mais après, l'écriture, ça, c'est... Au bout d'un moment, il y a besoin de faire le chemin à côté des personnages pour voir comment ils vont vivre le truc et comment, quel est le sens qui va émerger de ça. J'attaque toujours un bouquin en étant persuadé de savoir de quoi ça raconte et je le termine en me rendant compte que c'était pas du tout ça.
Ouais. Je me rappelle Serge Lehmann, il y a quelques années, qui nous expliquait les structures du récit, les structures anglo-saxonnes, midpoint, plot point... Et pendant des années, moi, j'ai appliqué ça à la lettre, notamment pour des textes comme ça, des novellas, véritablement, ça marchait très bien. Mais en vieillissant, en fait, Lucas, je suis d'accord avec toi. Finalement, il vaut mieux laisser aller la plume au bout d'un moment. Bon, en contrôlant quand même, c'est toute la difficulté qui permet d'aboutir à un récit finalement définitif, qui parte pas dans tous les sens non plus. Hein, c'est le.
Il faut bien apprendre un peu l'artisanat.
Il faut canaliser. C'est vrai que l'image du canal est. Alors moi j'ai une question qui me tient à cœur, mais oh là là. Alors est-ce qu'il y a encore une question en public? Vous voulez une question? Ah pardon Yvon, ok. Alors une question là, j'espère qu'on aura encore le temps après.
Bonjour. Alors vous nous avez beaucoup parlé des voyages dans les mondes de l'esprit sous l'angle de l'inconscient, de la projection et de ce qui est autour de nous et de ce qui nous dépasse. Mais alors dans ce cas-là, où est la place de la volonté de l'individu dans l'histoire?
C'est bien. Merci. Ça rejoint ma question. Du coup, je la glisse en même temps. Je me permets. On fait équipe comme ça. Où est la place de la volonté individuelle? Et est-ce que finalement, les voyages dans les mondes de l'esprit ne sont pas des voyages collectifs? Est-ce que finalement, dans le monde de l'esprit, est-ce qu'il y a vraiment une volonté individuelle qui continue d'exister? Où il y a une dilution de cette volonté et une immersion dans un collectif. Donc j'ajoute, hein, je ne la change pas trop. Voilà.
Je réponds brièvement. Alors, en un mot, si ça marche. Oui. La volonté est tout. À partir du moment où, en esprit, en conscience, on sort du corps, on est projeté dans le monde mental, dans le monde où toutes les idées, toutes les créations vont devenir vraies parce que la pensée est créatrice dès qu'on sort du niveau concret, réaliste, quand on rentre dans les mondes de l'esprit. La seule chose qui peut nous tenir, c'est le principe d'identité, de savoir qu'on est une centrale de pensée autonome, individuelle, et que tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde des illusions. Et la seule chance de survie, il y a des gens qui restent scotchés des centaines d'années dans ces univers, la seule chance de survie, c'est de souvenir qu'on est justement un ego. Un ego, il ne faut pas le tuer, il faut le domestiquer. Sinon, on devient tous des futurs nazis en puissance. La seule chose qui fait qu'on puisse résister à un Hitler, à une puissance collective comme ça, qui est à un niveau magique, hein, faut pas se raconter d'histoire, c'est d'avoir un ego construit. Et dans les mondes de l'imagination, dans les mondes astrales, c'est exactement la même chose. La seule chose qui vous permet d'avancer, c'est justement d'être une volonté, d'être un principe de pure volonté, c'est-à-dire moi j'existe, moi je. Et ceci n'est qu'une illusion. Et c'est la seule chose qui permet d'avancer dans ces univers. Donc c'est très très important.
Là où c'est paradoxal d'ailleurs, c'est qu'on doit vraiment travailler sur cette notion, peut-être pas d'ego, enfin c'est un terme qui me plaît moins, mais de volonté, de vigilance, de présence du moi, pour revenir à un vocabulaire un peu freudien, de façon à plonger dans une meilleure connaissance de soi, en vue de, comment dire, de faire se dissoudre ce moi dans la pluralité des choses, comme tu disais tout à l'heure. Dans le bouddhisme, c'est exactement ça qu'on fait. On dit que l'ego, c'est une illusion. Mais en même temps, toi, jeune apprenti, tu vas devoir faire des heures et des heures et des heures de méditation de façon à domestiquer tes démons, à domestiquer tes pensées, les poisons mentaux. Alors la première question qui émerge, c'est « mais je ne comprends pas. Si l'ego n'existe pas, il n'y a pas de moi, comment est-ce que moi, je peux faire ça ?» Et alors là, dans le bouddhisme, la petite, comment dire, la réponse à ça, c'est qu'il existe une sorte d'unité du moi qui est la pleine conscience, c'est-à-dire le moi, une fois que le voile des perceptions de l'extérieur est tombé. Et le terme m'échappe maintenant, mais c'est un moi de façade, un moi conventionnel. Voilà, c'est une sorte de réalité conventionnelle. Je peux peut-être évoquer une image pour expliquer un peu mieux ça, parce que là, je commence à me ouais. perdre. Mais disons un fleuve, juste pour finir là-dessus, un fleuve qui coule, voilà, le Rhône. On l'appelle Rhône. C'est un Rhône. On sait que c'est le Rhône et c'est bien de l'appeler Rhône parce que sinon, comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais vous dire, demain je vais pêcher dans le Rhône. Il faut bien que je puisse dire quelque chose. En même temps, le Rhône n'a pas de qualité propre parce que l'eau n'arrête pas de couler. Et donc, il n'y a pas de véritable
c'est
identité.
C'est encore la philosophie orientale, une fois de plus. C'est jamais voilà. la même rivière qui est devant nous. En
donc,
fait.
Il y a un ego ouais. et en même temps, il n'y a pas d'ego. C'était d'accord. un peu pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'il faut de la volonté, mais il ne faut pas trop partir dans la notion d'ego, parce que sinon, le but n'est pas atteint, de la méditation, en l'occurrence.
D'accord. Alors, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bien quand même avoir un dernier mot de Lionel et de Yvan, les deux derniers intervenants qui n'ont pas répondu.
De façon,
la place de la volonté. Ouais.
De façon très rapide, on a parlé d'initiation et de ce genre de trajet. Ce sont toujours des expériences qui sont éminemment subjectives, qu'on peut partager, mais quel que soit le média, c'est toujours imparfait. À partir de là, c'est une expérience qui est évidemment personnelle et la place de volonté qu'on lui donne reflète également la personne. La volonté peut être éminemment individuelle et personnelle, ou alors la volonté peut être de devenir collective, justement.
D'accord, oui. Et Yvan, un dernier mot ?
Dans 33e itération, c'est donc un univers qui est extrêmement individualiste et donc la volonté, on la retrouve dans la volonté de survivre de certains personnages, mais. Au-delà de ça, la seule chose qui sauve aux yeux du lecteur mon personnage principal, c'est qu'il a la volonté de faire les choses bien, de trouver le meurtrier, d'accord. de faire les choses justes, de pas. Et il pense à abandonner, il a des moments où il a plus de volonté, mais en fait, à ces moments-là, c'est la machine qui lui dit non, tu vas pas te laisser crever, mais maintenant tu fais ce que tu penses, et inconsciemment, lui, il a envie de faire ce qui est bien. Et donc, même s'il prend de la drogue, même s'il est hautement critiquable par tous les aspects, c'est donc ça qu'il pousse en avant et donc la seule chose qu'il sauve aux yeux du lecteur qu'il rend attachant.
D'accord. Donc finalement un consensus pour la volonté comme moteur et bouclier pour arpenter les mondes de l'esprit. Léviathan de Lionel Davoust, 33e itération de Yvan Bidiville, Singulier Pluriel, c'était un recueil de Lucas Moreno, et Jérôme Bourgine qui voyage dans le monde astral et qui nous en a parlé, Le Voyage Impossible. Merci à eux et bonne continuation. Merci.